Pourquoi traduire et retraduire nos valises? Pourquoi traduire tout court? Aujourd'hui, Olivier Schaeffer et Corinna Gapner.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Bonjour à toutes et à tous. Deux parutions au sommaire de la Compagnie des Poètes aujourd'hui. Traduire ou perdre pied, bref texte à fragments que vous signez aux éditions La Contre-Allée dans la collection Contrebande, Corinna Gapner. Germaniste, traductrice, on l'aura compris, et présidente de l'Association des traducteurs littéraires de France. Un bref et dense texte qui questionne le besoin de traduire en général et celui de traduire de l'allemand en particulier, héritage d'une histoire familiale complexe, dites-vous. Traduire pour se relancer ou en tout cas pour maintenir sa pensée en mouvement, c'est ce que vous faites, Olivier Schaeffer, maître de conférences en esthétique à Paris 1, que Novalis occupe depuis longtemps déjà. Depuis combien de temps d'ailleurs?
Bonjour, depuis les années 2000 je crois, quelque
chose comme ça, oui. Alors Novalis, biographe et commenté, traduit donc par vos soins. Après la traduction de son vertigineux encyclopédique Brouillon général, ce sont des manuscrits tardifs écrits à la toute fin de sa vie, entre 1799 et 1800, que vous donnez à lire, toujours aux éditions Alia. Pas moins de 705 petites notes, remarques, amorces de fiction, listes, rêveries. Notes sur la médecine, la physique, les plantes, les métaux, le roman, la religion, la poésie, bien sûr. Il n'y a en effet, écrit Novalis, pas de plus grande joie que de tout comprendre, d'être partout chez soi, d'être au fait en toute chose et de pouvoir se débrouiller en toutes circonstances. Vous avez retenu, Olivier Schaeffer, un titre pour contenir ou pour stimuler tout ça. À la fin, tout devient poésie.
Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin, couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. Suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons. Mais pas une main amie. Et où puiser le secours?
On ouvre non pas par un poème de Novalis, mais par un extrait de L'Adieu d'Arthur Rimbaud, un extrait d'une saison en enfer, dit par Robert Hirsch. Rimbaud qui fait une très brève incursion dans votre long texte de présentation, Olivier Schaeffer. Vous rappelez, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Qu'est-ce qui pourrait bien lier et dissocier ces deux-là, Rimbaud et Novalis?
Alors, il est rendu au sol avec la réalité rugueuse à étreindre, mais peut-être que ce moment-là est un moment de... un peu de déception qui suivrait le moment des illuminations, celui d'un désir de transfiguration poétique du monde. Novalis est dans le sol, mais il n'est pas rendu au sol comme si c'était quelque chose de décevant. Il part de ce sol, il part de ses études à la Bergakademie, il part de son travail sur les cristallographies pour romantiser le monde, comme il dit. Sa grande question, c'est celle-ci.
Qu'est-ce que ça veut dire, romantiser le monde?
Romantiser. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais alors si on va un peu vite, on se dirait qu'il s'agit de réenchanter un monde de la technique, voilà, un monde des lumières, de la rationalité, etc. Je crois qu'en fait, la question pour lui est vraiment de lier le fini et l'infini, l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est un désir d'unification des contraires, mais qui prendrait en compte voilà la diversité des sciences, la diversité des savoirs, sans exclusive, sans opérer de division d'école finalement. Le romantisme est un extraordinaire, premier romantisme allemand tout au moins, un extraordinaire laboratoire de pensée, d'écriture qui d'une certaine façon vise à se dépasser soi-même. Les romantiques disent, Friedrich Schlegel dit dans un de ses textes fameux, la poésie romantique est universelle, progressive, elle doit tout englober d'une certaine façon, ne jamais s'achever. Donc ce désir de romantiser le monde, au fond, c'est de repenser les liens entre la matière, l'esprit, le dedans, le dehors, entre des espèces différentes, en surmontant des cloisonnements, des divisions, peut-être d'écoles, d'académies ou historiques qui ont pu avoir lieu. Donc de ce point de vue-là, je crois que son rapport au terrestre n'est pas tout à fait le même. En même temps, Rimbaud dit dans un autre texte, « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres ». Et puis Rimbaud aussi, comme vous savez, lance dans « Bateau ivre, est-ce sans ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, ô millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur ». Donc là, on a un peu l'idée d'un âge d'or futur, qui est, au fond, là, ça c'est un geste très, très novalicien d'une certaine façon.
Alors Rimbaud, puisqu'on est à Rimbaud et Novalis, hein, Rimbaud comme prisonnier d'une certaine façon aussi de ce visage adolescent, hein, donc la fameuse photographie de lui à 17 ans, prise en 1871, un peu peut-être comme Novalis le fut par le portrait qu'on connaît de lui. On connaît surtout un portrait, une peinture anonyme de Novalis, où on le voit très jeune, cheveux longs, enfin éternellement jeune, cheveux longs avec une sorte de demi-sourire. Comment est-ce que vous comprenez qu'on se soit tant attaché à ces images, Olivier Schaeffer, à ces représentations, qu'elles aient tant conditionné nos lectures? Et vous-même d'ailleurs, vous êtes d'une certaine façon entré chez Novalis par cette image.
C'est compliqué parce que cette image à laquelle vous faites allusion, elle est celle d'un jeune homme qui est en même temps qui est une sorte de prophète qui vient appeler, annoncer une nouvelle religion, comme les romantiques disent entre eux. Et puis, et en même temps, il y a quelque chose d'un être un peu angélique, d'un autre monde, et on voit bien qu'il est aussi de ce monde-ci. Donc, ce qui est fascinant dans cette image, c'est que il vient d'ailleurs, et je pense que quand on lit ses écrits, on voit qu'il nous parle d'ici, et en même temps de tout à fait autre chose, en fait. Novalis, il a toujours un pas en avant, d'une certaine façon. Enfin, il lance toujours quelque chose, il lance des hypothèses, hein, comme il dit. Ses textes sont des hypothèses lancées dans l'avenir. Donc, cette image, voilà, est à la fois aussi... peut-être un cliché, hein, très certainement. Hein, enfin, on a pu en faire une sorte de cliché comme ça, du beau jeune et éternel adolescent. Mais il a quelque chose de masculin et de féminin à la fois. Il concilie aussi ces figures-là, et chez lui, c'est important cette idée de la conciliation des contraires.
Alors justement, Novalis meurt le 25 mars 1801, très jeune, donc à 29 ans. À son chevet, écrivez-vous, Olivier Schaeffer, son ami, Friedrich Schlegel, qui rapporte ceci à son frère, si c'est vous qui le citez. Il est certain qu'il n'éprouvait aucune crainte de sa mort, et on peut à peine croire qu'il soit possible de mourir avec autant de beauté. De quelle beauté parle-t-on ou parle-t-il ici ?
La beauté d'une, sans doute d'une sérénité, la beauté de quelqu'un qui a fait au fond tout ce qu'il avait à faire, et pourtant il laisse une œuvre profondément inachevée. Hein, c'est ça qui est paradoxal chez lui. Hein. Il écrit son grand texte qui s'appelle Heinrich von Ofterdingen, donc, où il est question de la fleur bleue notamment. La première partie.
Donc un roman inachevé.
Un roman inachevé, voilà. Et la première partie s'appelle L'attente, et la seconde, L'accomplissement. Et l'attente est achevée, et l'accomplissement est à venir. Il est éternellement. Donc il est pris dans ce paradoxe. Cette beauté aussi, c'est celle peut-être de leur amitié, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais qui était extrêmement importante. Hein. Novalis Lee Schlegel, voilà, les frères Schlegel ont collaboré le temps de cette revue, de l'Athénome, qui est une revue très importante, hein, entre 1798 et 1800, qui fonde vraiment la modernité littéraire. Et ils avaient comme ça un sens très absolu aussi de l'amitié. Donc mourir dans les bras d'un ami, c'est peut-être aussi voilà, quelque chose qui relève d'une forme de beauté, je ne sais pas. Après, on interprète, hein, vous savez.
J'espère bien. Dans votre introduction, Olivier Schaeffer, vous vous risquez à quelques jeux de miroir, donc avec Rimbaud, mais aussi Baudelaire, Kafka, les surréalistes. Et puis si on lit d'autres de vos textes avec certains artistes du Land Art, comme Smithson ou quelques artistes conceptuels, vous évoquez sa modernité extrême. Commencez même votre texte par cette affirmation de Thomas Bernhard : tous les philosophes vieillissent avec le temps, Novalis non. D'où vient ou viendrait que Novalis, au fond, nous parle encore ? Qu'est-ce que Novalis pourrait, pour nous, aujourd'hui ? Qu'il faut penser ensemble toutes choses ?
Bon, penser ensemble toutes choses, oui, mais les pensées... Alors, sa pensée, elle est une contradiction assumée, comme celle de Schlegel, c'est-à-dire d'une autre façon, sauf que son ami Friedrich Schlegel est davantage orienté vers la philologie, vers les questions de l'encyclopédie littéraire. Novalis est plus aux prises avec une réalité, on va dire, scientifique, avec les sciences de la nature. Cette modernité, elle vise à articuler des contraires. Ils veulent penser le tout, ces romantiques-là, et Novalis en particulier, mais pas à travers d'un schéma préalable, pas à partir d'un système, d'une architectonique, comme disait Kant, hein, qui donne à chaque chose sa place par avance. Donc ils proposent des modes alternatifs de penser du cosmos, en fait, hein, et de l'articulation de l'homme et de la nature. Et ils sont très fascinés par cette question, ce qu'ils appellent le chaos, le Kunstchaos, hein, le chaos d'art, le chaos artistique, comme une sorte de plénitude infinie de la vie. Donc il y a cette volonté de penser, on pourrait dire, le tout, mais en dehors de certains schémas logiques, et en inventant des modes de pensée ouverts. Le fragment est une...
D'où le fragment, oui.
Voilà, mais le fragment n'est pas l'anti-tout, c'est une autre façon, parfois il l'est, mais c'est aussi une autre façon d'articuler des éléments différents. La pensée de l'ironie, la pensée de la progressivité, hein, ils sont très fascinés par l'idée d'un progrès infini, donc ils sont marqués par la Révolution française, en même temps déçus par l'épisode de la Terreur, ils veulent la mener plus loin, hein, dans l'idée d'une progression vers un âge nouveau de la culture, de l'humanité. Donc voilà, pour résumer, peut-être une pensée du monde qui prenne en compte aussi les crises de l'époque moderne, hein, et qui surtout vise moins à repenser par nostalgie un tout qui a disparu qu'à le réinventer peut-être. Il s'agit peut-être de réinventer une forme de monde nouveau, hein, d'où cette idée assez incroyable qui traverse cette période qu'on va inventer une nouvelle religion, inventer une nouvelle mythologie, écrire une Bible nouvelle. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la prétérition du futur qui c'est extrêmement important. On voit souvent le romantisme comme une époque de nostalgie, hein, qui l'est aussi en partie. Mais ce premier romantisme-là, Novalis en particulier, sont vraiment très attentifs au mode d'invention nouveau. Hein. Il le dit d'ailleurs dans ce volume, hein, dans notre intérieur, il y a un monde nouveau, il y a des forces nouvelles à l'œuvre et on ne sait pas, au fond, ce qui peut en résulter. Hein, peut-être une psychologie nouvelle, peut-être des œuvres nouvelles. Donc, il y a quelque chose de très programmatique. Hein, penser un tout qui inclut en même temps tous les accidents, toute la diversité du monde et qui ne soit pas simplement... un système tel qu'il se met en place de façon différente, il est vrai, à l'époque dite de l'idéalisme allemand.
Et donc c'est ce qu'on entendrait ou ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui ?
Bah écoutez, ça pourrait en tout cas nous intéresser, de même que cette façon que les romantiques ont à la fois de travailler la subjectivité, l'intériorité, et puis d'une autre façon d'essayer de chercher la Weltseele, comme disait Schelling, hein, l'âme du monde, ce qui vient du monde lui-même, ce qui n'est pas simplement notre projection. Hein. Vous savez, il y a une formule fameuse de Daniel qui dit que le paysage est un Seelenzustand, un état d'âme, une projection de l'âme humaine sur le monde. Mais c'est bien autre chose aussi. Il y a quelque chose dans le paysage, dans la nature, qui lui est en propre, qu'il s'agit peut-être d'essayer de penser, de faire remonter. Et ces fragments dans leurs miettes, dans leur diversité, dans ces pollens, dans ces limailles qui s'appellent les uns les autres, peut-être, au fond, ils essaient de donner une place aussi à cette parole d'une nature qui ne sera pas simplement une projection anthropomorphe. C'est le fameux devenir comme maître et possesseur de la nature de Descartes avec lequel on en finit à cette époque.
On parlait de, enfin, vous évoquiez dans votre texte, et on l'évoquait ici, Thomas Bernard, grand lecteur de Novalis, qui suggère aussi que les chefs-d'œuvre se révèlent destructeurs et qui peuvent nous empêcher de vivre. C'est manifestement tout le contraire en ce qui vous concerne, Olivier Schaeffer. Il vous a fait écrire, penser, traduire, ce qui au fond est peut-être un peu la même chose, hein. On va en parler aussi avec Corinna Gepner. Traduire Novalis encore et encore, est-ce que ça vous suffirait finalement? Est-ce que vous n'auriez besoin de traduire personne d'autre que Novalis?
Alors c'est vrai que, à différence de madame, je suis un traducteur absolument obsessionnel.
On l'est tous, hein, je vous rassure.
On l'est tous, c'est propre à la traduction probablement. Monomaniaque, puisque depuis effectivement un certain nombre d'années, je ne traduis que Novalis, et en particulier ces fragments de théorie que je retraduis, que je reprends. Il m'est arrivé de faire quelques petites excursions, c'est là, mais je sais pas, c'est une matrice, une source de pensée. J'aime cet état de la matière et de la pensée en état de mouvement, de fusion permanente. Donc j'y retourne pour l'intérêt que j'y trouve et peut-être aussi parce que ça me fait travailler. Peut-être sûrement dans votre texte, vous avez évoqué ce texte fameux de Walter Benjamin sur la tâche du traducteur, hein, mais il dit au fond la traduction ça n'est pas de la communication, comme peuvent faire des traducteurs qui font la traduction simultanée, hein, ce qui est tout à fait évidemment remarquable, mais le traducteur surtout il réfléchit à la forme, et donc être traducteur c'est être écrivain. Et forcément. Et les romantiques sont de très grands traducteurs, par ailleurs. Donc toute traduction est une réflexion, évidemment, sur la langue de départ, mais sur sa propre langue, inséparablement. Donc peut-être que j'y reviens aussi, moi, pour apprendre et réapprendre ma langue et continuer à écrire, par ailleurs, ce que je fais.
Si je Corinna Gepner, me permettre d'intervenir, bien je sûr. Crois que c'est tout à fait essentiel. Je pense que lorsque j'ai commencé à traduire professionnellement, je me suis rendu compte qu'il allait me falloir m'approprier ma langue maternelle comme une langue de travail et une langue littéraire. Et ça n'allait pas de soi. C'est-à-dire qu'on a la langue qui est votre langue maternelle et qu'on utilise au quotidien, mais en faire un instrument littéraire, c'est-à-dire en la développer, la faire aller là où on n'a pas l'habitude de la mener, c'est encore tout à fait autre chose. Et ça, je crois qu'on s'en rend compte vraiment au moment où on commence véritablement à traduire, qu'on a un instrument et que cet instrument, il faut le travailler. Et on apprend sa langue, en fait. C'est même pas qu'on la réapprend, c'est qu'on l'apprend, on se l'approprie. Et elle n'est jamais exactement vôtre, parce que vous pouvez toujours faire autre chose, mieux, aller ailleurs. Donc c'est un travail sans fin, en fait.
Vous savez, Sartre, pardon, juste...
Olivier Schaeffer, oui.
Dans les mots, Sartre dit cette chose que j'aime beaucoup, il dit on parle dans sa langue, on écrit en langue étrangère.
Oui.
Et au fond, c'est ça. L'écriture, c'est déjà une traduction. Et peut-être que la traduction, c'est une autre façon de
le repenser. Parce qu'en plus, c'est essayer de faire advenir ce que vous ne dites jamais au quotidien. Voilà, c'est...
On va y revenir, évidemment, Corinna Gepner. Pour le moment, on va retourner à la traduction, justement, de ces... alors, ce ne sont pas tout à fait des fragments, hein, de ces notes et de ces remarques tardives. Hein, c'est 700 notes écrites entre l'été 1799 et l'automne 1800 par Novalis, c'est-à-dire vraiment juste quelques mois avant sa mort. Où en est-il de sa tâche et de sa vie à ce moment-là, Olivier Schaeffer? Alors, une vie qu'on sait, hein, traversée de mélancolie et de deuil, mais là, il lui reste, au fond, quelques mois à vivre.
Il a fait, le fait-on jamais, il a été traversé, je ne sais pas comment dire, par le deuil de Sophie von Kühn, hein, qu'il rencontre lorsqu'elle a 13 ans et demi et qu'il meurt à l'âge de 15 ans. Donc il écrit ses textes peu de temps après. Il est quelque sorte au fait de sa carrière pour l'État saxon. Il a fait ses études en 1797 à la Bergakademie, donc l'une des premières écoles de mine au monde, où se trouvait notamment son maître Abraham Gottlob von Werner, qui était un savant qui a organisé une classification des minéraux. Et Novalis, dans ses ces années-là, donc celle qui concerne ce manuscrit, est chargée comme ça de différentes tâches, d'évaluation, de gisements, de cuivre, d'étain pour cet État saxon qui a été rudement éprouvé par la guerre de 7 ans. Mais également, il se retrouve donc directeur de Salines. En Allemagne, évidemment. Et là aussi, il y a des questions d'ordre économique, c'est-à-dire savoir comment on va pouvoir procéder à l'utilisation de la saumure sans utiliser des énergies fossiles, on dirait aujourd'hui le charbon, mais plutôt par la graduation, par l'utilisation de la saumure dans des bâtiments, avec le vent, l'air, voilà, qui va dessécher ces éléments, etc. Donc des questions très, très techniques, si vous voulez, qui sont économiques à l'époque. Et lui, donc, voilà, prend toutes sortes de notes à ce sujet. Et parallèlement à cela, il écrit donc son grand roman inachevé, Henri d'Ofterdingen, dans lequel la question de la mine est extrêmement importante. Hein, c'est, avec celle de la fleur bleue, c'est une question importante. Et il écrit ces derniers textes, qui sont peut-être ces derniers textes, on va dire, théoriques, qui sont peut-être les plus mystiques. Hein, Novalis a été assez proche de Schlegel, avec l'idée que la littérature, au fond, est un âge critique. Là, on a plus cette idée que la poésie est vraiment Stimmung, que les Gemüts, hein, que c'est une... Alors, des termes importants, compliqués à traduire.
Il est extrêmement difficile.
Comment ?
Extrêmement difficile.
Voilà, en général, ce que font les traducteurs, c'est...
Stimmung, ils le laissent
quand c'est
tel quel.
Difficile, vite, tout ça, on traduit pas, maintenant.
C'est... Oui, bah parce qu'on restreint nécessairement le champ, en fait, quand on traduit. Donc, parfois, on peut avoir besoin de le laisser, oui.
Oui. Et donc, voilà. Donc, c'est une poésie peut-être un peu plus mystique, hein, qui a à voir avec... qui échapperait au régime de la critique, qui est de l'ordre de l'indescriptible, de l'expression d'une intériorité, d'un rapport au monde, tout. Et voilà, et il développe cette conception-là, ce grand roman qui est absolument extraordinaire, qui est un des romans les plus fascinants qui ait jamais été fait, à mon avis, et il est en plein dans ses activités professionnelles de responsable de Salines.
Vous vouliez peut-être nous en lire un extrait, d'ailleurs, de ce grand roman.
Oui, alors j'avais pensé à la première partie, donc l'attente, et au chapitre 5, alors il y a... C'est un peu difficile à résumer, c'est même impossible. Heinrich von Ofterdingen rencontre des compagnons de voyage, des marchands. Ils vont rencontrer un ermite qui va rappeler la figure, enfin, pardon, un vieux mineur qui rappelle la figure de ce professeur Werner. Et puis ensuite, ils descendent dans une mine, et à l'intérieur de cette mine, il y a une espèce de deuxième grotte, une grotte dans la grotte, dans laquelle ils rencontrent un ermite, justement, un personnage tout à fait étrange, qui possède une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a un livre, et ce livre comporte des images qui rappellent à Heinrich ses rêves, et il n'est pas terminé non plus, donc on pourrait dire que c'est un petit peu la figure du poète romantique, hein, qui travaille tout au fond de la mine, et à un moment donné, il dit cette chose très belle, l'ermite qui discute donc avec le vieux mineur. « Vous êtes un peu des astrologues à l'envers, » dit l'ermite. Alors que ceux-ci gardent les yeux fixés au ciel et en explorent les espaces infinis, vous, vous tournez vos regards vers la terre et en sondez la structure. Ils étudient les forces et les influences des astres et vous essayez de connaître les énergies des rochers, des montagnes, les multiples influx des couches de terre et de roches. Le ciel est pour eux le livre de l'avenir, tandis qu'à vous, les figures de la terre révèlent les origines du monde. Donc on aura cette idée que les mineurs sont des astrologues à l'envers. Et donc cet imaginaire voilà de la mine et évidemment de la caverne, de la grotte, alors ça résonne dans notre civilisation à travers la légende orphique, le mythe de la caverne platonicien. Donc c'est des lieux de mort, de deuil ou au contraire d'ignorance. Là, c'est le lieu de la vérité d'une certaine façon, une vérité originaire, hein, qu'on va chercher. Et puis c'est aussi évidemment une sorte de métonymie, c'est-à-dire que l'intérieur de la mine, c'est l'intérieur profond et insondable du moi. Hein. Kant disait la descente en soi est une descente dans les profondeurs, hein, est une descente aux enfers même. Il y a cette idée-là terrible, hein, que plus on descend en soi, plus on découvre alors soit un monde infernal, soit une vérité révélée comme celle de ce livre mystérieux qui se trouve au fond de la grotte.
Ce titre, Olivier Schaeffer, donc qui a été choisi.
Oui.
Pour ce manuscrit tardif. Alors, dans la note 570, oui. Il écrit « Il est parfaitement compréhensible qu'à la fin, tout devienne poésie. Le monde ne devient-il pas, au final, âme. Donc ça, c'est dans la note 577. Peut-être alors un mot sur ce titre, Olivier Schaeffer, sur cette fin, sur ce tout et sur cette poésie.
C'est vrai.
Fait trop.
Non. mais c'est normal, tout est trop à l'époque. Oui. C'est ça qui est bien. Oui, il y a une espèce de... Il y a un millénarisme dans le romantisme. Dans ce premier romantisme, on retrouve la figure de Joachim de Flore, cette idée d'un troisième règne, un règne, voilà, comme ça, de la grâce. C'est une chose qui revient, une pensée eschatologique de la fin des temps. Donc c'est à la fois, quand il écrit ça, il pense à la fois à son roman, inachevé, dans lequel, au fond, toutes les figures opposées doivent se réconcilier. Donc les notes qu'il a laissées, d'ailleurs, pour ce Heinrich von Lofterdingen sont fascinantes, parce que c'est une réconciliation finale entre l'Orient, l'Occident, tous les éléments terrestres, voilà, célestes, doivent se réunir. Et puis c'est un devenir spirituel du monde qui, à l'époque, évidemment, a à voir avec la poésie. La poésie, c'est c'est la grande figure de l'esprit, finalement. Et en même temps, c'est une poésie, c'est un poème, hein, c'est la création, au sens premier du terme. Hein. Donc, voilà.
Il en est effectivement beaucoup question dans ses notes, dans ses remarques, hein, pas seulement, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi, plus on avance dans le manuscrit, comme des petites amorces. Alors, en même temps, c'est le propre des fragments aussi, hein, cette joie de commencer. Des commencements qui se répètent en permanence, mais des petites amorces de fiction, de nouvelles, de contes. Alors il y a aussi des rêveries justement sur ce roman qu'il est en train d'écrire. Je pense à un tout petit texte qui se trouve dans la note 633, si je ne me trompe pas. C'est très court. Un jeune officier souhaite se marier. Il en parle à son frère, qui s'efforce de l'en dissuader. Mais il ne change pas d'avis et tombe d'abord amoureux d'une riche jeune femme qu'il ne connaît pas. Puis, comme celle-ci se refuse à lui et comme il en éprouve une grande peine, il aime une autre femme, une sage servante, sans talent, puis une personne riche, plus âgée, qui se refuse pour des raisons morales. Elle se convertit à la foi morave. Ainsi, après 3 chagrins successifs, il se contente paisiblement de sa situation et devient un grand poète. C'est une des...
De quoi naît la poésie?
Je ne sais pas s'il faut commenter plus
avant. Oui. comme vous voulez.
Je vous voyais sourire, vous connaissez
ça. Corinna Gaffner. Oui, j'ai lu effectivement l'anecdote qui m'a beaucoup amusée. Effectivement, mais en même temps, il y a tellement de choses contradictoires ou contraires, et en tout cas pas du tout en accord avec ce qu'on pourrait nous fantasmer, imaginer, que je trouve ça délicieux justement pour ces raisons-là. Ce qu'on peut mettre derrière la poésie, le fait qu'il en profite très tranquillement, ces déceptions qui sont racontées avec une forme de légèreté ironique et qui en même temps renvoient à quelque chose qui est très profondément est tout simplement le fait d'être expulsé du champ de l'amour d'une certaine manière. Enfin, c'est très...
Oui, puis c'est très curieux parce que c'est pas du tout ce qu'il a fait.
Non.
Il dit lui-même dans un de ses textes, je veux mourir jeune comme un poète.
Joyeux.
Comme un poète joyeux, merci.
Oui.
Merci de rectifier, je me mourir jeune comme un poète joyeux, ce qu'il a fait d'une certaine façon. Et là, on a quelque chose qui serait en effet une espèce de longue maturation, le contraire même de ce qu'il a pu vivre.
Alors, on voit bien, Olivier Schaeffer, effectivement, comment, et puis vous le rappelez aussi, hein, comment au fond il regarde tout, en particulier, enfin en tout cas ce qui est concret, il le regarde en savant, il regarde en savant et en poète. Vous parlez même d'usage poétique de la souffrance physique du corps. Qu'est-ce que ça voudrait dire que de regarder la maladie, par exemple, en poète?
Mais je crois que ça pourrait vouloir dire que le novalis le dit d'ailleurs par moment, le médecin est un poète transcendantal. Il y a cette idée que la médecine est une interrogation sur au fond, pas simplement sur telle ou telle maladie perçue à tel endroit du corps, mais sur le fonctionnement même de l'âme, mais sur l'influence de l'âme sur le corps. Il y a cette idée d'une espèce de thérapeutique poétique, hein, qui circule cette période et dont à laquelle, voilà, à sa façon, Novalis participe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va exalter la beauté de sa maladie, il en souffre, tout simplement, je veux dire, le romantisme et son romantisme, le romantisme de la souffrance, enfin, il crache du sang, enfin, c'est, voilà, il a des problèmes respiratoires, tout ça n'est pas très poétique, c'est sûr. Mais il y a cette conscience que le, voilà, l'âme et le corps sont absolument articulés et que l'âme a une influence possible sur le corps, voire peut-être qu'elle peut produire d'autres organes. Il va jusqu'à imaginer ça, qu'on pourrait se créer un autre corps par la pensée.
Les premiers accords de La Nuit Transfigurée de Schoenberg sous la direction de Pierre Boulez, un sextuor composé un siècle tout pile, je pense, après la mort de Novalis, composé pour la femme qu'il aime, en l'occurrence Mathilde, et qui décrit cette promenade nocturne sous la lune entre deux amants. Je ne vais pas non plus raconter aussi toute cette histoire-là. C'est une musique que vous avez choisie, sur la pointe des pieds. Olivier Schaeffer, je dois le dire, vous aviez peur que ça fasse trop. Alors, ça fait un peu trop, mais en même temps...
Mais trop, c'est pas assez.
Voilà.
Mais oui, mais écoutez, faire clair ton art, c'est un, voilà, c'est un des grands, dernier grand, grande pièce romantique, hein, de Schoenberg avant sa période dodécaphonique. C'est très marqué par, Wagner, le début de l'acte 3 de Tristan, évidemment, la mort d'Isolde, etc. Et effectivement, il y a ce poème de Richard Hemmel, ce couple, voilà, qui s'aime au bord de la lune, cette femme qui annonce l'homme avec lequel elle est, qu'elle attend un enfant qui n'est pas lui.
D'un autre,
et finalement, il va lui pardonner, l'amour va vaincre toutes ces difficultés. Mais au fond, c'est très. J'ai pensé évidemment à ce morceau parce que ça m'évoque les hymnes à la nuit, naturellement, de Novalis, publié donc dans la revue de l'Athénome, avec une partie en vers et une partie en prose, qui est le grand poème de la transfiguration du deuil après la mort de Sophie, donc sa jeune fiancée, et dans lequel il dit, dans l'hymne 3, à un moment donné, il est au bord de la tombe de Sophie, donc il va lui rendre d'ailleurs régulièrement visite, hein, il tient un petit journal de deuil assez étonnant, Novalis, à ce moment-là, et tout d'un coup il a une vision, il la voit transfigurée, et il dit je vis les traits transfigurés de la bien-aimée. Et vraiment, on est vraiment dans cette idée de la transfiguration par l'amour, en fait, hein, et avec une traversée de la douleur. Donc ce poème voilà, de Schoenberg m'évoque très fortement les hymnes à la nuit. Je pense qu'il le connaissait, évidemment.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
la voix de Dietrich Fischer-Dieskau au piano, Günther Weissenborn interprétant Mundart de Schumann en 1955. Mundart, c'est ce « On reste dans la nuit », bien sûr, forcément.
Merci de cette très très belle surprise.
Je vous en prie, avec plaisir. C'est ce poème donc de Eichendorff, poète romantique, né une dizaine d'années après la mort de Novalis, hein, et qui fait l'objet de quelques pages dans votre livre « Traduire ou perdre pied », Corinna Gebner, paru à la Contre-Allée. Puisqu'on parle de poésie justement, perdre pied, on y pense évidemment. Qu'est-ce qui est acceptable comme perte lorsqu'on traduit? C'est une question que vous posez justement en citant ce poème-là. Qu'est-ce qui est acceptable? Alors peut-être, excusez-moi, je vais peut-être le lire rapidement, ce oui. poème qu'on a entendu qu'en allemand, et dont on a ici une version française. C'était comme si le ciel eût embrassé la terre, que dans l'éclat des fleurs, elle dut rêver de lui. L'air passait dans les champs, les épis ondoyaient, tout bas bruissaient les forêts dans la clarté de la nuit, et mon âme déploya toute l'ampleur de ses ailes par les terres silencieuses comme pour rentrer chez elle. Qu'est-ce qui est acceptable alors ?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là. C'est une négociation permanente, si je puis employer ce très vilain mot, mais qui dit bien en fait qu'on est continuellement dans la recherche, dans, à mon sens, dans l'exploration, dans on revient continuellement sur ce qu'on a mis sur le métier, et puis à un moment on s'arrête parce que on s'aperçoit que non pas c'est ce qu'il y a de mieux, mais qu'on ne saura pas faire mieux, ou on ne saura pas faire autrement. Et je crois que c'est ça qui met un terme à un moment donné au travail qu'on peut avoir, ce qui ne veut pas dire que, en reprenant plus tard, des années même après, on n'ira pas ailleurs ou plus loin. Mais je pense que c'est là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose, dans un travail qui ne vous fait jamais parvenir à une forme de vérité, si vous voulez. Je crois qu'on arrive à une sorte d'état des lieux, à un moment d'état des choses, à un moment donné. Mais et c'est pour ça que j'ai parfois on m'a dit souvent mais pourquoi cette humilité en tant que traducteur? Je dis mais c'est consubstantiel au travail. C'est que vous savez que à un moment donné vous arrivez à quelque chose et que ce quelque chose va s'inscrire, mais vous n'en serez vous jamais satisfait. Voilà. Donc c'est il est question de perte, évidemment. Parce que par définition même, ce que vous traduisez là, le texte, la voix de l'auteur que vous traduisez, voilà, vous essayez d'en restituer quelque chose avec d'autres moyens. En même temps, je pense que c'est précisément cet état d'insatisfaction que je ressens, et je crois que je ne suis pas la seule en tant que traductrice, qui m'incite moi qui est un moteur, un stimulant absolument formidable. Et qui inscrit la traduction dans la créativité, dans l'invention permanente. C'est ça qu'il faut dire aussi, parce que c'est pas simplement, je dirais, une expérience de la perte et de la résignation. Si c'était ça, autant arrêter tout de suite. Hein.
Mais vous dites insatisfaction, Corinna Gebner. Parfois même, parfois c'est angoisse à
oui.
vous lire.
Tout à fait. Là, évidemment, ça n'engage que moi. Sauf que je me rends compte que ce livre a effectivement apparemment beaucoup résonné auprès d'un certain nombre de mes amis et collègues traducteurs. Angoisse, oui, tout à fait, parce que on est. Je crois que ça rejoint ce que je disais à l'instant. Il n'y a pas de vérité possible. Donc, vous êtes livré à vous-même et d'une certaine façon, vous êtes obligé de grandir. Et d'accepter que précisément il n'y ait pas de vérité et que vous proposiez vous proposez quelque chose. Voilà. Il n'y a rien de plus incroyable et de plus terrifiant que d'être dans cette position-là en fait.
Cette mise en musique qu'on entendait de oui. Schumann, hein, d'un poème par Schumann, c'est aussi pour vous, Corinna Gebner, une façon d'évoquer ce que pourrait être la traduction, ou en tout cas le mouvement de la traduction.
Oui, je crois beaucoup à... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de trouver quand je travaille en traduction. C'est un rythme. Une forme d'énergie, mais une forme d'énergie qui soit évidemment en cohérence avec celle du texte et celle de l'auteur dans le texte précis, C'est aussi la justesse. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup et je suis continuellement à la recherche de la justesse, comme on serait à la recherche de la justesse du son. Et je repensais à un film, c'est un film de Clouzot, je crois, qui montre Karajan en répétition avec l'orchestre. Et ce qui m'a fasciné à l'époque, c'est qu'il montre comment Karajan, je veux dire, il se contente pas de répéter un morceau. Il veut obtenir un son de la part de l'orchestre. C'est ça qu'il travaille. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Il le fait sonner. Et tant qu'il n'est pas arrivé à le faire sonner, il va rester là à travailler ça. Parce que de cette capacité à sonner va dépendre tout le reste. Donc je crois qu'il y a quelque chose de similaire dans la traduction. En tout cas, c'est ce que je recherche, on va dire.
Vous racontez d'ailleurs dans « Traduire ou perdre pied » que vous avez commencé à traduire au moment où vous avez définitivement arrêté de faire de la musique.
Il y a peut-être quelque chose
comme ça. Comment est-ce qu'il faudrait regarder justement cette chronologie ? Est-ce qu'il faut forcément d'ailleurs en déduire quelque chose ?
Non, j'en déduirai rien, sinon qu'effectivement il y a un rapport à la musique qui est toujours là. Et que peut-être je devais savoir que ça ne passerait pas par un instrument de musique, par la pratique d'un instrument de musique, ou en tout cas elle a été très très limitée, mais que je la porte en moi autrement. Et le fait est que je parle toujours de justesse, de musique, de rythme quand je parle de traduction. Donc c'est sans doute pas un hasard.
Pardon alors de revenir, comme pour Olivier Schaeffer, au titre, mais j'ai juste une petite question sur se traduire ou perdre pied, là en l'occurrence juste sur ce « ou », sur ce « ou » entre les deux, qui serait davantage un « ou » d'équivalence ? Traduire, c'est perdre pied ?
Ou bien, si je ne traduis pas, je perds pied. Donc on peut le comprendre en fait de diverses manières, la traduction comme un salut si vous voulez, se sauver par la traduction, et puis effectivement comme une équivalence, traduire c'est je crois très profondément perdre pied, c'est en tout cas l'expérience que j'en fais, parce que c'est comme lorsque vous vous regardez dans la glace pendant un moment, tout d'un coup vos traits se brouillent. Vous ne vous reconnaissez plus et vous avez en face de vous quelque chose qui est inconnu. Et je crois que c'est aussi l'expérience que je fais du langage. Quand je travaille un texte, on pourrait croire que la signification est donnée dans le texte, c'est pas vrai. C'est quand vous vous approchez du texte, tout d'un coup, vous ne comprenez plus ce que les mots veulent dire. Alors après, il y a d'autres choses qui se combinent, parce que tout simplement, les mots peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Et ils ne peuvent pas dire quelque chose de manière séparée, ils disent quelque chose ensemble. Donc vous construisez quelque chose qui, en même temps, est évidemment le reflet de votre capacité ou non à comprendre un texte. Donc c'est pour ça que c'est un exercice foncièrement incertain, et c'est pour ça qu'il est tellement passionnant. Je sais que plusieurs fois j'ai entendu, lorsque j'étais invitée à parler d'une traduction, quelqu'un dans la salle me demandait « Mais alors, est-ce que je peux vous faire confiance ?» Et je répondais toujours « Mais c'est une très bonne question, je peux pas répondre à ça. »
Alors la traduction vous vient un peu par accident, Corinna Gepner, oui. Par hasard, comme souvent d'ailleurs dans ce métier-là, sans assise théorique, en faisant, en cheminant, vous revenez beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Alors hasard, ça serait bon, évidemment trop simple, hein, sinon oui, vous n'auriez pas écrit ce texte. Donc hasard et double injonction secrète, côté paternel et côté maternel, et qui pourrait avoir affaire avec ça. On écoute la voix de l'écrivain Klaus Mann, juste après la libération.
You can't go home again. These words were in my mind, haunting me, like a nostalgic tune, a melancholy leitmotif. While I was touring occupied Germany in 1945, I went over the Alps by jeep and approached Munich, the city where I was born and spent most of my childhood. What a strange, nightmarish experience to walk through those once familiar streets, now reduced to masses of ruins and rubble. I hoped to find our house intact, but I was to be disappointed. The building turned out to be an empty shell, with its inside all burned out, its roof destroyed, its staircase in pieces. As I was standing there, contemplating somewhat nostalgically the happy home of my youth, I discovered there was a girl on the balcony just in front of my former room. She said, "I'm living here. This balcony is all right, as long as it doesn't rain." "Do you know whose house this used to be?" I inquired. "I suppose it belonged to some writer," she explained rather indifferently. "Then the SS took it over. They had a Lebensborn here." According to her explanation, a Lebensborn was a place where racially qualified young men and women collaborated in the propagation of the German race. Many fine babies were born in this house. The idea was positively sickening. I felt a stranger in my former fatherland. There was an abyss separating me from...
Alors, même si son anglais étranger, un fort accent allemand, facilite la compréhension, autant pardon, c'était un peu long comme extrait en anglais, peut-être, Corinna Gapner, vous pourriez nous interpréter ce qu'il dit au fond et ce qu'il vous dit à vous.
Alors en fait, c'est lorsqu'il Klaus Mann, alors pour resituer, fils aîné de Thomas Mann, qui a pris très rapidement position contre le nazisme et qui a été un des opposants les plus officiellement actifs contre le nazisme parmi les écrivains allemands de l'époque. Et donc il a quitté l'Allemagne le 13 mars 33 et émigré il est resté en Europe et il a émigré aux États-Unis en 38. Il s'est engagé dans l'armée américaine et il accompagne l'armée américaine en Afrique du Nord au moment donc de ce qui sera la libération et remonte par l'Italie et là il raconte en fait son arrivée à Munich qui est sa ville natale et son espoir de trouver la maison familiale intacte. Et sa déception en constatant que c'est une coquille vide, en fait, il ne reste plus que la façade. Et il raconte d'ailleurs cet épisode-là dans un petit texte, en fait, qui est dans un recueil que j'ai le plaisir de traduire, oui. Et donc, il fait la rencontre d'une jeune fille qui vit sur le balcon, qui n'a tout simplement plus de domicile et qui vit sur le balcon, et qui sait vaguement que cette maison a appartenu à un écrivain. Et qui raconte qu'elle a été confisquée, réquisitionnée par les SS, qui ont installé une clinique où ont favorisé la propagation de la race supérieure en invitant des hommes et des femmes soigneusement choisis à s'accoupler pour produire la race supérieure de demain.
Des beaux bébés.
Voilà, de beaux bébés, absolument. Donc vous imaginez ce que ça signifie pour Klaus Mann d'arriver là et d'apprendre ceci. Mais bon, ça c'est le document qui en soi déjà est tout à fait unique. Mais j'avoue que si je l'ai choisi, c'est à la fois par une très forte tendresse pour ce personnage qui s'est exposé de manière tout à fait exemplaire justement dans une résistance viscérale au nazisme et à son idéologie, mais aussi parce que il y a quelque chose avec la langue. Il fait partie de ces émigrés qui ont décidé de changer de langue. Et ça n'a pas été un choix facile. Beaucoup d'écrivains allemands émigrés n'ont pas fait ce choix ou n'ont pas pu le faire. Lui a décidé véritablement de parler l'anglais, de se mettre à écrire en anglais. Et l'une de ses autobiographies, du reste, il l'a écrite là-bas en anglais. Et il y a donc quelque chose d'extrêmement émouvant, je trouve, à l'entendre. Parce que, évidemment, pour un écrivain, changer de langue, c'est un séisme. Et il a accepté d'aller jusque-là, en fait. Donc il y a quelque chose vraiment que je trouve profondément émouvant chez cet homme.
Alors qui touche sans doute aussi à votre histoire personnelle. Vous y revenez, Corinna Gapner, dans Traduire ou perdre pied. Alors pardon, parce que la question va peut-être être un petit peu énorme, mais donc c'est Pologne, Russie, côté paternel, Prusse orientale, Poméranie, Berlin, côté maternel. De quoi serait fait ce lien entre cette histoire familiale, alors double histoire familiale, et votre, j'allais dire votre choix de traduire, peut-être même votre besoin de traduire.
Oui, comme vous dites, la question est un peu énorme. Mais j'essaierai pas non
plus. Parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, c'est pour ça.
Non, j'essaierai pas non plus d'y répondre de façon
frontale.
Frontale. Je crois que ce qui m'a intéressé d'explorer dans ce texte, c'est le lien qu'il peut y avoir, un lien très intime qu'il peut y avoir entre le choix de devenir traducteur et une histoire qui est à la fois une histoire personnelle et une histoire collective. Et si je le relis plus particulièrement au fait de traduire de l'allemand, parce qu'un traducteur de l'allemand aujourd'hui en vient forcément un jour ou l'autre à traduire un livre, au moins un livre, qui a trait à l'histoire récente et au nazisme, à la Seconde Guerre mondiale, à la persécution, à tout ce que vous voulez. C'est quasiment obligé. Donc on est tributaire de cette histoire et il se trouve que par mon histoire familiale, j'en suis encore plus tributaire. Que ce soit la partie juive de la famille ou la partie allemande, il y a des disparus de part et d'autre. Ça fait finalement un terreau assez propice à une interrogation sur ce qui s'est dit, ne s'est pas dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses de l'ordre du non-dit dans ma famille, je sais pas, très original, mais aussi un rapport à la langue qui est un rapport très heurté. L'allemand, je ne l'ai pas appris par ma mère, et je pense qu'il y avait une sorte d'interdit par rapport à cette langue. Ce que je me suis forcée de faire, ce n'est pas d'apprendre à la parler, comme on aurait pu l'imaginer, c'est d'aller vers quelque chose qui est finalement une forme de tentative d'élucidation et de décryptage. Et je crois que la traduction, pour moi, est fortement liée à ce type d'approche, en fait. Donc voilà, j'y répondrai un peu par ce biais-là.
Par un coin, par un œil en coin, oui, comme vous dites. Donc ça serait, j'imagine, trop simple hein, de voir dans le choix de la traduction le lien avec une part de la famille manquante. C'est-à-dire.
Oui, ce serait tout à fait simpliste finalement. Parce que les choses ne sont jamais aussi simples, c'est que c'est pas une opposition entre les Juifs et les Allemands, pour dire les choses brutalement. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Alors ça, et on le voit très bien effectivement en vous lisant dans votre texte où vous posez infiniment plus de questions que vous n'y répondez. C'est même beaucoup de questions sur ce que vous disiez à propos de votre allemand lacunaire au fond. Je me disais aussi Olivier Schaeffer, j'avais pu lire aussi que pour vous les gens disons absolument bilingues ne feraient pas toujours les meilleurs traducteurs parce que justement ils perdraient ce rapport à l'étrangeté de l'original.
Oui, alors je ne veux pas parler au nom
que Corinna Gepner vient de traduire.
Plein de gens ados, évidemment, c'est
dangereux là.
C'est très très dangereux. Non, mais je pense évidemment à ce très beau texte d'Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger, hein, dans lequel il a réfléchi à cette question-là, et notamment en prenant appui sur la période romantique, hein, qu'il n'y a pas de traduction s'il n'y a pas une prise de conscience de quelque chose d'irréductible, en effet, d'intraduisible, en fait. Une étrangeté qui nous fait vaciller, perdre pied, en effet, et que traduire, c'est travailler à partir de ça aussi, et c'est se dire qu'il y a quelque chose qu'on peut pas traduire, fondamentalement. Et c'est ça, peut-être, le moteur qui fait qu'on y revient, que toute traduction est une approche. Alors, les romantiques, eux, seraient, au fond, beaucoup moins modestes. Je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure de l'humilité, du fait qu'effectivement, face à la langue, à un moment donné, on ne sait même plus vraiment ce que veulent dire les mots, ce qui serait, pour Paul Valéry, le début de la poésie. D'ailleurs, on répète un mot un certain nombre de fois, il perd son sens, il devient que musique, et puis après, il se passe quoi, autre chose. Novalis écrit à Schlegel, à un moment donné, à Friedrich Schlegel, il se pourrait bien que le Shakespeare allemand soit meilleur que l'original. Et il avait cette idée que la traduction est une manière de poursuivre le texte, vraiment Lübersetzen, mais au sens d'aller de l'autre côté, en fait, de le mener plus loin que lui-même. Donc c'est une conception absolument pas modeste, pour le coup, de la traduction qui a à voir avec leur conception de l'écriture infinie, en fait, d'un régime de le texte n'est jamais terminé, il est toujours à reprendre, à savoir à travers ses lecteurs, mais aussi ses traducteurs.
Dans votre humilité, Corinna Gepner, au fond, vous dites aussi la même chose. Traduire, c'est quand même aussi
continuer à faire vivre un texte, exactement. Il ne s'arrête pas le jour où il a été écrit et publié, et ne serait-ce que parce que tout simplement, il continue à vivre dans tous ses lecteurs. Mais évidemment aussi à travers les traductions, les retraductions, et aussi à travers toutes les erreurs qui se font, parce qu'une erreur n'est jamais anodine. Et donc elle dit toujours quelque chose de la réception d'un texte en fonction d'un contexte, de ce qu'on essaye de trouver dans le texte, de ce qu'on essaye de faire dire au texte.
Absolument.
Donc c'est un mouvement sans fin. Je veux dire, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est la capacité d'un texte à un moment donné à initier quelque chose qui va se poursuivre mais des siècles plus tard. Enfin, c'est quand même assez étonnant.
Alors vous, Corinna Gebner, c'est par Kafka hein, que vous commencez.
Je n'ai pas cherché, je vous rassure.
Un texte tout particulier hein, qui commence « Car nous sommes comme des troncs d'arbres dans la neige », qui est un texte de 1906, hein, les arbres. Qu'est-ce qui vous captive tant dans cette phrase? Alors, je vous pose la question, c'est un peu tordu, est-ce que précisément dans votre texte, vous dites que vous ne savez toujours pas ce qui vous captive dans cette phrase-là? Mais en tout cas, vous dites d'emblée la traduction, un point de rencontre entre l'allemand et la judéité. Qu'est-ce que cette première traduction viendrait dire a posteriori hein, de votre désir de traduire?
Je crois que c'est là aussi, je pense qu'il y a des choses qui se sont mêlées dans cette première traduction, qui serait peut-être un peu trop anecdotique là pour que je les évoque. Mais je crois que ce qui m'a frappé dans ces textes de Kafka, c'est leur incroyable capacité de résonance. Je veux dire, on n'en a jamais fini. Mais vraiment, dans la compréhension, c'est des textes qui continuent de résonner en moi aujourd'hui. Pas ma traduction, bien sûr, mais le texte allemand. Et ce texte que je cite, « Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee », c'est en fait cet extrait d'un ensemble plus vaste, mais il est très intéressant qu'il ait repris ça dans ce recueil. Ça commence au milieu. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est la façon dont d'autres traducteurs traduisaient ce « den ». Parce que ils ont voulu accentuer le caractère causal ou le caractère et justement j'avais pas envie de ça. J'ai essayé d'être beaucoup plus légère là-dessus parce que précisément à mon avis on est ailleurs.
Corinna Gebner, Olivier Schaeffer, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Jacques Ezubert, à la préparation, Thierry Beauchamp et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Alors, bon après-midi à toutes et à tous.